dernier rapport. Et c'est la fin de ce bulletin d'information.
Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Toutes mes excuses pour la qualité quelque peu défectueuse de ma voix. Nous sommes lundi et comme vous le savez, c'est le rendez-vous du sport. Tout le sport sur la voie de l'Amérique. Bienvenue à tous sur Sporama. Au micro, Élisée Moupatine. Avant toute chose, on va saluer d'abord nos consultants, Lawal Tinkosuro, qui est avec moi dans ce studio. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée.
On retrouve Amédine Sy depuis Dakar au Sénégal. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amine Birouk nous rejoint depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, en direct de Kinshasa, Valdo Simo Yamba, qui nous a fait encore le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Au sommet ce soir, les conditions pratiques des stades africains reportent les éliminatoires du mondial de 2022 pendant que le président de la CAF effectue une visite de travail en Afrique de l'Ouest. Et puis, la Ligue Basketball Africa démarre le 16 mai prochain à Kigali au Rwanda. Bienvenue à tous. Le président de la CAF s'est rendu dans trois pays d'Afrique de l'Ouest pour une visite de travail de trois jours, accompagné du président de la FIFA Gianni Infantino. Patrice Motsepe, en Côte d'Ivoire, a annoncé un don de 10 millions de dollars pour soutenir le développement et la croissance du football scolaire dans les six zones de la CAF, dans la perspective du championnat panafricain de football scolaire FIFA-CAF. Au Libéria, les deux hommes ont annoncé que le président de la République, George Weah, sera le premier ambassadeur de ce projet. Patrice Motsepe et Gianni Infantino ont conclu leur visite par la Sierra Leone où ils ont rencontré la première autorité du pays, Julius Manda Bio, ainsi que Aïcha Jouassène, présidente de la Fédération de football. Amine, finalement, c'est une visite pour le développement et l'avenir du football africain.
Il y a deux aspects, au Libéria et en Sierra Leone, certainement le développement du football africain dans la mesure où il y a un projet concernant le sport scolaire dans les six zones de la CAF. Il y a évidemment le prestige du président libérien George Weah, ancien ballon d'or en 1995. Et puis en Côte d'Ivoire, il y a aussi un dossier épineux à régler, celui de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Il y a un comité de normalisation. On sait que la FIFA souhaiterait voir Didier Drogba accéder aux plus hautes fonctions. Mais on verra dans quelle mesure les dirigeants du football ivoirien et Didier Drogba arriveront à un consensus sous le pilotage de la CAF et de la FIFA. Ce sera certainement le principal défi qui attend la FIFA et la CAF d'ici la fin du comité de normalisation, la fin de son mandat au mois de novembre prochain.
Valdo, ce projet du foot lancé à Kinshasa est en train de prendre corps.
Effectivement, Élisée, la FIFA et la CAF sont en train de faire asseoir ces projets sur du solide en mettant directement en contact les autorités politico-sportives des différents pays qui, une fois lancés, rien ne pourra l'empêcher de gagner du terrain. Le choix du président Weah comme ambassadeur est plus que judicieux. Il a l'ADN du football en lui et il porte avec lui une expertise avérée en matière de football. La FIFA veut bien se servir de son image sur le continent car il a une histoire à raconter du genre conte des fées. Alors qu'avec lui, c'est du vrai. Le seul qui a gagné les ballons d'or France Football est devenu président de la République. Avec ce qui est en train d'être fait, Kinshasa, qui doit lancer le tournoi inaugural, est dans l'obligation de bien se préparer pour que cela soit une véritable réussite. Cette compétition interscolaire peut bien permettre à l'Afrique d'atteindre une nouvelle dimension en matière de détection des talents.
Amédine, Motsepe et Infantino ont calmé le jeu en Côte d'Ivoire par rapport à la crise au niveau de la Fédération de football. On peut dire que le dénouement est proche.
Oui, Élisée, on peut dire que le dénouement est proche car la visite du nouveau homme fort de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe, et du patron de la FIFA, Gianni Infantino, veut dire ce que cela veut dire, hein, car le patron du football mondial a profité de ce séjour pour s'exprimer sur la crise qui a secoué le football ivoirien l'an passé avec l'arrêt du processus électoral pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football et la nomination d'un comité de normalisation. Gianni Infantino a appelé les acteurs du football ivoirien à faire front derrière un candidat commun. Espérons, Élisée, que l'appel du président de la FIFA sera entendue par tous les candidats. Il s'agit de Sori Diabaté, Idriss Diallo et de Didier Drogba, Élysée.
Lawal, c'est une visite qui visait plusieurs objectifs, même loin du foot.
Oui, Élysée, il fallait une telle visite pour rassurer les uns et les autres et montrer finalement que MOCP, au-delà de tout ce qu'on a dû dire par rapport à son imposition par la FIFA, et qu'il fallait donc qu'il aille toucher du doigt la réalité des choses, lui qui ne connaissait pas assez bien la maison, il fallait qu'il prenne le pouls de tout ce qui doit être fait. Et qu'ils aient réussi à remettre en route le processus en Côte d'Ivoire, qu'ils aient réussi à suspendre certains stades, c'est un signal fort qu'il a donné avec l'appui donc de Gianni Infantino, son mentor. On espère que dans cette lancée, ils vont trouver les belles parades pour relancer le foot africain, éviter que des histoires de faux tests Covid et autres ne viennent assombrir encore l'horizon.
Est-ce que la FIFA avait besoin de se mêler de cette visite?
Bon, la FIFA est l'instance fêtière mondiale du foot. Et si la FIFA est sollicitée par la CAF en appui, je trouve que ce n'est pas mauvaise chose. Aujourd'hui, MOCP donne forcément ou certainement raison à ceux qui pensent que sans Gianni Infantino, il ne serait pas élu président de la CAF et que sans lui, il ne pourra peut-être rien faire de grand. Il le prouve à souhait en se faisant accompagner du président de la FIFA. Mais l'un dans l'autre, une telle promiscuité ou proximité entre les deux instances ne ferait que du bien. Pourrait-on espérer au foot africain qui véritablement a besoin d'un nouvel élan?
Une fois encore, Infantino profite pour rencontrer des chefs d'État africains.
Il en a besoin forcément, il en a besoin et c'est une diplomatie offensive et il a déjà fait une tournée à travers l'Afrique, il reprend cette fois-ci et dans le viseur il faut vous dire qu'il ne le fait pas comme ça pour les beaux yeux de MOCP, pour les beaux yeux des présidents africains, il le fait pour espérer un retour parce que l'élection à la FIFA est en vue déjà. Et puis il faut qu'il ait le soutien inconditionnel de l'Afrique, pourvoyeuse de beaucoup de suffrages. Donc c'est dans cette optique, me semble-t-il, qu'il fait sa visite. Mais on ne peut pas lui dénier son droit de vouloir briguer un nouveau mandat à la tête de la FIFA.
Les supporters des sélections africaines devront patienter avant de voir leur équipe entamer les éliminatoires du mondial de 2022. En effet, les deux premières journées de la phase de poule programmée début juin ont été reportées à septembre. Une décision de la commission d'urgence de la CAF en concertation avec la FIFA. Ce qui va entraîner d'ailleurs un décalage de tout le calendrier de ces qualifications. La raison évoquée est la prise en compte des défis que représente la gestion de la pandémie de coronavirus et surtout l'état déplorable de certains stades retoqués par la CAF et la FIFA qui veut obliger une vingtaine de pays à une rapide remise aux normes, mais surtout leur sélection à jouer leur match à domicile dans un autre pays. À Medine Si, la grosse surprise, c'est le Sénégal qui n'a pas de stade aux normes et pourtant première nation africaine au dernier classement FIFA Coca-Cola.
Tout à fait, Élysée, c'est une surprise, mais c'est la vérité, le Sénégal ne dispose pas d'un stade aux normes. C'est une honte pour notre pays, car le Sénégal est la première nation africaine au niveau du classement FIFA depuis 2018. Le Sénégal est finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique 2019 qui s'est déroulée sur les bords du Nil. L'actuel ballon d'or africain, Sadio Mané, pour ne pas le nommer, porte les couleurs du Sénégal, mais malheureusement, le Sénégal ne dispose pas d'un stade aux normes. Comme vous le savez, les trois stades sénégalais ne fonctionnent pas. Le stade de Mbodiop a été fermé depuis juillet 2017 après les incidents. C'était lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Il y avait un mur qui s'était affaissé. Il y a eu même des morts. Ensuite, il y a eu la fermeture du stade Léopold Senghor pour réfection depuis plus de deux ans. Maintenant, il ne restait au Sénégal qu'un stade, la Dior, qui a été homologué temporairement par les responsables de la CAF. Mais comme vous le savez, la FIFA ne badine pas avec les infrastructures sportives et cela a amené quand même la non-homologation du stade, la Dior. Maintenant, le Sénégal
devrait normalement jouer hors du pays, mais heureusement que les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde ont été reportés. Le Sénégal pourra profiter de ce report pour pouvoir réceptionner le Stade Ladior enfin de recevoir ses adversaires Élysée.
Valdo, presque le même cas de figure pour la RDC, privée du stade des Martyrs, pourra finalement jouer sur le stade du TP Mazembe.
Et tout à fait, Élysée, le stade des Martyrs n'a pas été retenu pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. C'est avec raison, plus d'une fois réhabilité, mais pas toujours satisfaisant devant les inspecteurs de la CAF. Et je crois que cette fois, l'occasion est belle pour permettre aux autorités de la RDC de faire un bon travail pour sa réhabilitation, qui a presque bouffé l'argent qui pourrait construire un autre stade, jouer au stade Tout-Puissant Mazembe, qui est un stade privé et le seul à répondre aux exigences de la CAF et de la FIFA. Doit être une interpellation pour ainsi trouver des voies et moyens afin que d'autres stades à travers la RDC fassent également l'objet d'une homologation CAF et FIFA, et non locale ou encore nationale. La RDC compte pas mal des stades dans différentes provinces, mais qui ne sont d'aucune utilité pour des matchs internationaux et pourtant homologués, et on y joue des matchs des interclubs de la CAF et voire du championnat de la RDC.
Lawal, la bonne nouvelle pour le Bénin est que les écureuils ne joueront pas à Freetown la Sierra Leone le match décalé de la dernière journée des éliminatoires de la CAN de 2022.
Oui, Élysée, ce n'est que justice parce que déjà le 30 mars dernier, on avait vu l'état piteux du stade et malgré ça, la CAF l'avait suspendu, a rétabli le stade. Pour quelle raison, on ne le sait pas. Maintenant, si ils ont estimé qu'il faut jouer ailleurs, c'est bien et ça fera véritablement un coup de chance pour les écureuils, peut-être, si on jouait ce match-là ailleurs que sur ce stade qui était carrément dégradé. On le voyait et tous avaient convenu que c'était pas un bon stade, mais comme à la CAF, il y a des décisions qu'on comprend pas, on n'a pas compris pourquoi on l'a rétabli alors qu'on l'avait suspendu pour quelques matchs, et voilà, on le rétablit comme ça. Aujourd'hui, ce n'est que justice qu'on ait pu suspendre à nouveau ce stade-là.
Plus loin, est-ce que la CAF avait besoin de reporter cette première journée pour des raisons de stade non aux normes?
Non, c'est là aussi une aberration au niveau de la CAF. On ne peut pas demander aux États de mettre aux normes des stades tout de suite comme ça et décaler les éliminatoires. C'est un calendrier qui est bien établi et qui était déjà là. Donc on ne
est-ce que
pas...
ces stades pourront être mis aux normes en moins de 3 mois?
Non, Élysée, c'est une vue de l'esprit que de le penser. Regardez, je prends l'exemple du stade de l'amitié, général Mathieu Kérékou, du Bénin, qui est en réflexion depuis plusieurs mois. On n'a pas encore pu terminer. Et quand on demande aux gens de mettre aux normes des stades en 3 mois, bon, c'est certainement qu'ils ont la formule magique pour aider ces pays-là à mettre ces stades aux normes. Sinon, dans la pratique, dans la réalité, c'est infaisable. Et c'est une vue de l'esprit, je le disais. Et il faudrait qu'on cesse de se moquer des responsables du foot africain de cette façon-là.
Allô, Amédine, le Maroc qui a énormément investi pour mettre aux normes ces stades est épargné?
Le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, même le Cameroun, en raison de la prochaine CAN, ont investi pour avoir des stades aux normes. D'autres pays sont à la traîne, c'est le cas du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, qui n'ont pas pour l'instant un seul stade homologué. La raison évidente, c'est bien sûr les carences en termes d'infrastructures pour pouvoir tenir ces rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde, le principe d'égalité à maintenir, parce que auquel cas ces pays auraient été obligés de disputer leurs rencontres sur terrain neutre. Et puis il y a aussi la mise à niveau de tout le protocole sanitaire. Ça reste une raison sous-jacente, mais pas la plus évidente concernant ce report. Un report qui servira certainement les intérêts de beaucoup de pays qui vont devoir mettre la main à la pâte pour pouvoir rapidement mettre à niveau leurs installations sportives.
Avec du handball, la Confédération africaine de la discipline a annoncé le report du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe Or. Initialement prévu du 20 au 29 mai prochain à Agadir au Maroc, la 37e édition de cette compétition a été reportée en août prochain. Il se tiendra du 19 au 28 août dans la même ville d'Agadir. Ce report fait suite à la pandémie à coronavirus qui continue de sévir dans certains pays, entraînant des chamboulements sur le calendrier des activités de l'enceinte continentale. Amin Birouko, le royaume chérifien n'est pas encore prêt à accueillir des compétitions sur son sol.
Le Maroc préfère le principe de précaution. Aujourd'hui, on rappelle que 54 destinations ne desservent plus le royaume chérifien. Ça permet bien évidemment de préserver la population et de maintenir le niveau de contamination à son strict minimum. Il faut aussi rappeler que d'autres manifestations à caractère international ont été soit décalées, soit reportées, soit annulées. C'est le cas du tournoi de Casablanca de tennis qui appartient à l'ATP Tour, le cas du trophée Hassan II de golf qui appartient à l'European Tour de golf et qui est un des seuls tournois sur le continent qui a cette catégorie. Le Tour du Maroc cycliste, ce sont autant d'événements qui ne sont pas programmés pour l'année 2021 ou qui ont été décalés au dernier trimestre. Donc on comprend parfaitement ce report de cette compétition africaine de handball. C'est tout simplement le principe de précaution qui est mis en avant, mais ce n'est que partie remise.
Ahmedine Sy, et pourtant la Tunisie vient à peine d'organiser le championnat d'Afrique des clubs de volleyball.
Tout à fait, Élisée, je pense qu'il y a des non-dits dans ce report car la pandémie est là depuis plus d'une année. Mais comme on le dit, la pandémie a bon dos. Maintenant, je pense que les responsables du HAN africain doivent mettre la pression sur les Marocains pour qu'ils puissent organiser cette compétition au moins du 19 au 28 août prochain à Agadir, car il faut quand même organiser cette compétition. Je pense qu'ils doivent le faire. Élisée.
Valdo, il est temps que les différentes confédérations africaines commencent par réfléchir aux prochaines attributions des compétitions en Afrique.
Réfléchir, oui, mais la gestion dans les temps de cette pandémie joue en défaveur des organisateurs de différentes compétitions, puisque là, par exemple, tout a été programmé, mais la pandémie vient imposer sa loi contraignant au report de la compétition. À un certain niveau, il faudra peut-être avoir déjà un plan B au cas où les pays choisis ne seraient pas à même d'accueillir les autres nations, faute de la pandémie. Mais Élisée, est-il que, aussi longtemps qu'on n'aura pas maîtrisé complètement cette pandémie, il ne sera pas du tout surprenant que les compétitions ou les pays d'accueil des compétitions ne soient confrontés à cette difficulté qui s'impose à tous et à chacun. La survie des compétitions demeure encore très fragile et seule la maîtrise de la pandémie pourra lui rendre toute son efficacité pour le moment. C'est vraiment compliqué avec cette pandémie, Élisée.
Lawal, à quelques mois de la CAN féminine qui aura lieu au Cameroun, la CAB peine à organiser ses compétitions.
Oui, Élisée, la pandémie du coronavirus a chamboulé tout le calendrier sportif à travers le monde. Mais si certains pays arrivent, malgré cette pandémie, à organiser des compétitions, je ne vois pas pourquoi d'autres se récusent après avoir accepté. Donc, il y a comme du laisser-aller qui s'observe. Le Maroc, qui avait refusé la CAN de moins de 17 ans à quelques jours de son coup d'envoi, alors que d'autres pays étaient prêts à prendre cette CAN-là, la CAF n'a pas daigné répondre favorablement à cette demande, par exemple, de la Zambie ou autres pays qui étaient prêts à organiser. Aujourd'hui, si la Confédération africaine de handball a les mêmes problèmes, et ils n'auront qu'à réfléchir à ce qu'il faut pour ne pas qu'à quelques jours des compétitions qu'on les décale, qu'on les annule comme on a pu l'observer. Donc il faut un plan de contingence, un plan de rechange chaque fois qu'il y a une compétition de ce genre pour que les choses se passent au mieux.
Il faut noter que la Confédération africaine de handball informe ses membres que la 28e édition de la Supercoupe en dames a été maintenue le 22 mai prochain à Luanda en Angola. Termine cette émission par du basketball. La nouvelle compétition africaine des clubs va enfin démarrer. La Ligue Basketball Africa verra le jour le 16 mai prochain à Kigali au Rwanda. Une initiative de la NBA et de la Fédération internationale pour le développement de la discipline sur le continent. 12 clubs qualifiés en tant que champions nationaux ou issus d'une phase qualificative sont répartis en 3 groupes de 4. Dans le groupe A, le club du pays hôte, Patriotes de Kigali, devra jouer gros face au champion tunisien l'US Monasti, au Nigérien de River Hoppers et au Malgache de la Gendarmerie nationale. Amine, le représentant marocain Laïs Salé, logé dans le groupe B, fera face aux Angolais du Petro Atlético de Luanda, aux Camerounais de FAP et aux Maliens de l'AS Police.
Une excellente initiative qui devait voir le jour en 2020.